On le sait, depuis janvier dernier, un plan social est sur le feu à la Voie du Nord. Pas moins d'un quart des postes est menacé. Les salariés se battent pour sauver des postes et aussi défendre la qualité de l'information de ce journal quotidien régional. On a recueilli par téléphone le témoignage d'un des salariés en lutte.
Je m'appelle donc Bertrand Bussière, je suis délégué syndical SNJ, qui est un syndicat catégoriel, le syndicat majoritaire chez les journalistes. Je parle au nom de l'intersyndicale de la Voie du Nord, qui intersyndicale est composée de la FILPAC CGT, du SNJ CGT, de la CFDT et donc du SNJ.
Il y a une intersyndicale parce que vous êtes mobilisé contre un plan social à la Voie du Nord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est venu ce plan social et comment le justifie la direction ?
Petite précision, l'intersyndicale n'est pas née de ce plan social. Il se trouve que, particularité, on va dire dans la presse, l'intersyndicale est ancienne à la Voie du Nord. Elle prend encore plus d'importance du fait qu'elle soude encore plus les gens dans ce plan social qui est né de la volonté de notre actionnaire belge, puisque nous dépendons d'un groupe de presse belge qui s'appelle Rossel, qui possède Le Soir en Belgique, qui est un peu l'équivalent du Monde en France, de créer une autre société très différente pour les années à venir. Cette société, ceci non pas parce que la Voie du Nord est déficitaire, ce qui est un peu une particularité de ce plan social adossé à un plan de départ volontaire. C'est donc un PSE adossé à un plan de départ volontaire. Non pas une fois encore parce que la Voie du Nord est déficitaire, ce qui n'est pas le cas puisque les exercices passés, et ce sera encore le cas de l'exercice 2016 dont les résultats seront présentés bientôt, ne sont pas dans le rouge. Aucun résultat n'est dans le rouge. La Voie du Nord dégage des bénéfices. Donc notre actionnaire fait valoir, et pour le moins notre direction fait valoir, le fait qu'elle prépare l'entreprise à un nouveau fonctionnement pour le futur, d'où cette nécessité à supprimer des postes, et pour le moins à une baisse constatée de la diffusion qui l'obligerait à recourir à des licenciements dans les années à venir. Mais pour le moins, aujourd'hui, il n'y a pas d'urgence à licencier. Et ces licenciements portaient au départ du plan sur 178 suppressions de postes, sachant que la Voie du Nord emploie 700 personnes.
Donc ça fait 20-25% des effectifs, c'est ça?
Ça fait 25% des effectifs.
Ça peut paraître étonnant parce que normalement, pour un plan social, il y a quand même un cadre juridique assez précis. Est-ce que finalement, la direction de la Voie du Nord a le droit de mettre en place ce type de plan social en l'état des choses?
La plupart du temps, on considère qu'une entreprise, enfin les gens pensent qu'une entreprise peut licencier parce qu'elle a des difficultés financières. C'est oublier que un plan social de compétitivité, puisque ça existe, ne demande pas ce qu'il y ait, j'allais dire, une difficulté financière à l'instant où le plan se met en place pour donner lieu à ses effets, ce qui est le cas du plan qui nous préoccupe aujourd'hui.
Ce qui veut dire que la direction prévoit en fait une baisse du lectorat, notamment du journal payant La Voie du Nord, c'est ça?
Tout à fait, puisqu'elle constate une baisse dans l'exercice précédent, donc dans l'exercice 2016, qui était aussi le cas dans l'exercice 2015. La presse, en règle générale, perd des lecteurs, et perd surtout perd des lecteurs, perd pas forcément des lecteurs, mais perd surtout des gens qui l'achètent, et donc c'est le cas de la Voie du Nord, mais pour le moins, la Voie du Nord est encore bénéficiaire, sachant aussi que la Voie du Nord a une particularité que j'estime nécessaire de présenter à vos auditeurs, c'est que la Voie du Nord est également une holding. Ses salariés, pour le moins, pas ses salariés journalistes, mais ses rotativistes, son service paye, son service comptable et d'autres services également, travaillent pour le compte d'autres sociétés du groupe, puisque la Voix du Nord est une holding et est à la tête en France du Courrier Picard, de l'Union de Reims et peut-être demain, puisque la Voix du Nord a pour projet de racheter Paris-Normandie et d'autres types par la suite. Donc le service paye également l'impression de ces titres sont assurés par la Voix du Nord.
En gros, on s'achemine vers un modèle où il y a une mutualisation des moyens de production et puis aussi la fabrication du journal avec moins de salariés, moins de journalistes aussi.
Tout à fait. C'est même pire encore puisqu'on s'achemine vers une société qui est déjà le cas puisque effectivement il y a mutualisation, mais qui externalisera, puisqu'il y a une projection d'externaliser une partie des tâches, notamment du pré-média, sur des sociétés extérieures, et demain, pourquoi pas, d'autres activités de la Voix du Nord, donc des sociétés extérieures, des sociétés malheureusement souvent à bas coût, ou pour le moins à des coûts moindres que ceux de la Voix du Nord. Autrement dit, la presse aujourd'hui, tout comme une industrie classique, est dans une situation où le low cost prime.
Pourquoi, au-delà de la situation des salariés, des journalistes de la Voix du Nord, pourquoi cette situation de fabrication de journaux à bas coût est grave, selon vous, pour l'ensemble de la société ?
Elle est grave parce que à un moment donné, la société risque de se retrouver uniquement avec des salariés pauvres, ce qui est déjà quand même une problématique majeure d'une société, que les gens puissent vivre de leur travail. Deuxièmement, l'autre problématique qui se pose, c'est que la sous-traitance telle qu'on la vise pourra demain aussi s'appliquer dans les tâches de journalistes, puisque aujourd'hui on voit apparaître dans la presse des salariés employés, des journalistes employés en tant qu'auto-entrepreneurs dans maintes entreprises de presse, alors que le cadre d'auto-entrepreneuriat n'est pas permis dans la presse. Il n'en demeure pas moins que des éditeurs emploient des auto-entrepreneurs. Et pourquoi pas demain dans la presse quotidienne régionale.
Ce qui peut être aussi grave, c'est la qualité de l'information. On peut dire qu'avec moins de salariés, forcément, la qualité de l'information apportée au lecteur est moindre.
Ma direction vous répliquerait que, bien au contraire, elle a pour objectif d'être plus proche des salariés en créant beaucoup plus de pieds-à-terre, autrement dit de lieux d'implantation, de micro-lieux d'implantation sur le territoire, puisque aujourd'hui, dans le plan tel qu'il est présenté, il y a des créations de bureaux à Wormhout, à Solesmes, ici ou là sur le territoire qui n'existait pas jusqu'à présent, sauf que ce qui pourrait être considéré comme un plus, de se rapprocher du lectorat et de se rapprocher de l'information, en mettant des guillemets autour de l'information, sauf que on ne met pas suffisamment de journalistes. On crée un journaliste ici, un journaliste là, qui travailleront dans des conditions très dégradées. Le fonctionnement de la réorganisation qui va de pair avec ce plan social, puisqu'il y a une réorganisation de la rédaction, sédentarise beaucoup de journalistes pour traiter de l'information numérique et malheureusement supprime énormément de postes de journalistes sur le terrain, de journalistes dans le jargon journalistique qu'on appelle les localiers, ceux que les gens du Nord-Pas-de-Calais croisent fréquemment lorsque on leur demande ce qu'ils pensent de leur association, de la vie politique locale et de tout autre sujet.
On parle des journalistes, mais il y a aussi les gens de la production du journal, c'est-à-dire les gens de l'imprimerie, en gros, hein, qui sont menacés. Hein. C'est quoi à peu près le ratio pour l'instant prévu au niveau des suppressions de postes, par exemple ?
Bien, je vais vous donner juste un exemple. Hein. Les rotativistes, c'est un terme qui doit parler aux gens, sont aujourd'hui au nombre de 26. Le plan prévoit que à terme, il ne soit plus que 11. Ceci est très parlant. De même, les gens du prémédia, donc ce sont les gens qui traitent les publicités, seront amputés d'un nombre très important de personnes, puisque les responsables prémédias sont les chefs, sont 9, ne seraient plus que 5. Voilà, enfin, c'est un exemple parmi d'autres de la manière dont seront toucher les services, sachant que ce plan affecte tous les services, hormis deux services, le service marketing et le service informatique.
Alors, il y a des négociations en cours entre, j'imagine, votre intersyndicale et puis la direction. Où en est-on aujourd'hui?
Alors, on est même pas au milieu du guet, devrais-je dire. Le plan, pour peut-être apporter une information supplémentaire, le plan est contraint par les différentes lois qui ont vu le jour ces derniers mois, notamment la loi Rebsamen, qui oblige, enfin pour le moins fixe, des dates de négociation très 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 courtes lorsqu'il y a, notamment ce qui est le cas dans notre plan, moins de 200 suppressions de postes. Donc aujourd'hui, nous avons débuté la discussion le 10 janvier et nous sommes censés avoir rendu notre copie le 10 avril. Par la suite, la directe aura une dizaine de jours, enfin un peu plus éventuellement, pour valider ou pas le plan, à savoir si d'ailleurs ce plan sera signé par les organisations syndicales ou pas. Voilà. Donc, quand je dis au milieu du guet, nous sommes, on va dire, quasiment à fin février, donc reste un gros mois de négociation.
La directe, hein, c'est la direction de l'inspection du travail. Hein,
du travail, tout à fait.
Alors, l'enjeu pour votre intersyndicale, c'est aussi de mobiliser des lecteurs, des citoyens, des élus autour de votre cause, finalement.
Alors, les enjeux sont doubles. Alors, il y a d'abord un enjeu, je veux dire, au sein de l'entreprise. C'est d'abord, on nous présente une facture telle que je vous l'ai déjà exprimée, telle que je l'ai exprimée, de 178 suppressions de postes. C'est de faire en sorte que la facture baisse, à terme, nous n'arrivions pas à 178 suppressions, sachant, et ça je dois le reconnaître, pour l'instant le message de la direction, c'est de dire le chiffre au terme duquel nous mettrons d'accord, si nous n'y arrivons pas, parce que une fois encore ce sont des départs volontaires, s'il y a moins de personnes qui veulent partir que le chiffre qui est affiché, nous ne procéderons pas à des licenciements secs. C'est une promesse verbale. Nous espérons pour le moins qu'elle soit tenue, qu'il n'y ait pas de licenciement sec. En tout cas, c'est une menace qui plane, hein, puisque la possibilité dans un PSE existe. Donc c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus de gens, que nous puissions sauver le plus de postes. Pour l'instant, chez les journalistes, il était prévu, on va dire, 55 suppressions de postes de journalistes, puisqu'il se crée aussi des postes de journalistes un peu experts numériques, donc qui font que le vrai chiffre est 55. Nous avons, au cours de la dernière négociation, pu sauver 14 postes de journalistes. Voilà. Mais l'objectif est le même un petit peu partout, de grappiller les postes, non pas par facilité, mais parce que cette entreprise a besoin de journalistes, a besoin de personnel pour fonctionner. Les rotatives, demain, se doivent, j'allais dire, d'avoir un nombre suffisant de rotativistes pour tourner. Je vous ai parlé de 26 suppressions et de 11 suppressions de postes chez les rotativistes. Les rotatives ne peuvent pas tourner avec 11 suppressions de postes. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, il va de soi que Nous nous devons de délivrer une information de qualité aux gens du Nord-Pas-de-Calais, et ceci doit aller avec, bien évidemment, un nombre de postes de journalistes conséquents, et nous pensons que notre électorat est conscient de cet aspect-là des choses, et nous l'enjoignons à nous soutenir, et notamment à nous soutenir au travers VDN en lutte, qui est notre page Facebook, hein, puisque nous avons une page Facebook à travers laquelle les gens peuvent nous témoigner leur sympathie. Nous y a également un compte Twitter, et à travers tout autre type d'action, nous allons bientôt faire circuler une pétition, et nous apposons des affiches ici ou là chez les commerçants qui ont la gentillesse de nous laisser un espace sur leur vitrine, à travers lesquels nous montrons ce qu'est une du journal avec 25% d'espace en moins.
Alors justement, la place laissée à votre lutte, à l'intérieur de votre journal, on peut se poser des questions parce que la Voix du Nord a quand même une forme de monopole, hein, d'information sur la région. Si la direction du journal décide de ne pas parler de votre lutte, on n'entend pas forcément parler de vous. Alors comment ça se passe un petit peu? Il me semble que quand même il y a des communiqués de votre intersyndicale qui sont déjà passés en tout cas dans les pages de la Voix du Nord.
Écoutez, la Voix du Nord a communiqué, on va dire, à travers une double page il y a de cela quelques semaines, à travers lesquelles elle disait répondre à des questions des lecteurs et en rassurant les lecteurs sur ce que serait le journal de demain, donc à travers une double page. Nous avons, considéré qu'il était de notre devoir à ce moment-là, de donner aussi notre vision des choses. La direction a accepté de ce fait-là la publication d'un communiqué de l'intersyndicale dans une édition du samedi il y a 15 jours de cela. Depuis, effectivement, ni les uns ni les autres n'avons demandé un espace dans le journal pour faire état de la situation.
Finalement, la situation des salariés de la Voix du Nord, ça rejoint un petit peu la situation de pas mal de salariés de la presse quotidienne régionale un petit peu partout en France. Comment vous voyez un petit peu la situation au niveau national? Et puis là on est en pleine campagne présidentielle. Est-ce que vous êtes attentif aux propositions des uns et des autres sur la presse en France?
Mais écoutez, je parlerai du syndicat, de mon syndicat. Nous avons envoyé à l'ensemble des candidats à la présidentielle toute une série de points, autrement dit 10 sujets qui nous semblent essentiels pour la presse. Je ne reviendrai pas sur ces 10 points, je m'arrêterai seulement sur l'un des points, qui est celui de l'indépendance des équipes rédactionnelles. Aujourd'hui, c'est un combat que le SNJ porte depuis plusieurs années, qui malheureusement n'a toujours pas donné lieu à une loi. Quand je parle d'indépendance des équipes rédactionnelles, c'est de sacraliser un nombre de journalistes qui puissent qui ne soient pas affectés par les mouvements capitalistiques, par les plans sociaux, pour faire en sorte que l'information puisse continuer d'être diffusée correctement. Autrement dit, on se rend compte qu'au fil des entrées dans le capital des entreprises de presse, on ouvre les portes à des départs. Ce qui a été le cas ces dernières années de nombre de titres, dont un des derniers en date est l'Express, où il y a eu un plan de départ volontaire, beaucoup de journalistes sont partis. Ceci donne lieu derrière à une dégradation du titre, à l'emploi de journalistes plus précaires, de pigistes. Les équipes en place sont bien évidemment moins fortes, moins nombreuses. Donc aujourd'hui, il y a une vraie nécessité à sacraliser les équipes rédactionnelles au sein des titres.
Bertrand Bussière, délégué syndical SNJ, membre de l'intersyndicale Voix du Nord, interrogé le 17 février dernier. Vous pouvez adresser vos messages de soutien aux salariés de la Voix du Nord en lutte. Vous tapotez VDN en lutte sur les réseaux sociaux. Il y a aussi une pétition qui tourne à ce sujet sur le site internet www.change.org. Manipulation by the truth and the lie. Your indignation is to take us for a ride. The world got to know. Got to know. Got to know. Got to know.